Il se trouve que quand on nous a proposé cette table ronde, ça a fait écho à des très anciens travaux que j'ai faits concernant un petit peu l'urbanisme et la question de l'imaginaire urbain aussi, et que cette question de la pédagogie innovante s'inscrit évidemment dans un espace social et territorial ample. Et je dirais qu'il y a quand même il y a un avant et un après mai 68. Il y a un rapport au savoir qui est aussi craint par la société, et notamment ce qu'on appelle le corps des étudiants. Donc ce campus qui a été créé après mai 68, celui où on se trouve sur un ancien mas agricole, atteste de cette histoire ancienne, qui est que dans les universités, il y avait des centres urbains anciens. À Montpellier, on voit bien la cartographie des universités. Et l'université Paul Valéry est revenue grâce à un local qui était un hôpital central. Donc, vous voyez, l'ancienne université Paul Valéry, de Montpellier, était au centre, évidemment. Et après, il y a eu des extensions extérieures. Cette réflexion, dans les années 70, elle a donné lieu à, par exemple, ce numéro de la revue Recherche, qui s'appelle les équipements du pouvoir. 76 exactement, le bouquin est sorti en 77, il est là, si vous voulez regarder, dans la vieille collection 10-18. Donc on peut le faire tourner ou... le propos est de dire qu'il n'y a pas d'organisation collective de service public, par exemple, sans une contreface qui serait qu'un hôpital, une université, un lycée, un collège, une école primaire devient aussi une zone de pouvoir au sens large, pouvoir économique, pouvoir de sélection sociale, pouvoir du savoir, et que donc c'est sur ça que c'est ça qui a été mis en avant dans les années 70. Donc je rappelle juste que ces travaux ont été influencés évidemment par les travaux de Foucault, qu'ils sont en plein dans aussi l'entourage de Guettari et Deleuze, qui fait qu'il y a une partie de l'anti-Oedipe qui en fait sort de ce programme de travail, et que c'était une commande d'État à cette revue, à ces chercheurs, de réfléchir sur l'urbanisme et la relation à la vie familiale, à la vie professionnelle et à la vie, on va dire, estudiantine. Donc l'idée de l'équipement de pouvoir, c'est que c'est un lieu où il n'y a... où c'est pas le lieu de la famille, c'est pas un lieu familial, c'est normalement pas un lieu politique, et c'est pas un lieu capitaliste ou économique, en théorie. On voit bien qu'aujourd'hui, les lignes, c'est plus compliqué, on va dire, qu'à cette époque-là. Et donc, ils définissent l'équipement de pouvoir comme un endroit où des usagers peuvent être soumis, effectivement, à des sélections, à des rangements et à des traitements. Donc on a tous entendu parler d'un processus de déshumanisation dans des structures, on va dire. Je renvoie aux travaux de Erving Goffman sur Asile, l'idée d'institution totale est aussi dans l'air à cette époque-là. L'idée de contrôle à la Foucault est évidemment dans l'air à cette époque-là. Et on voit tous que sur un grand nombre d'étudiants, on est obligé de classer, de faire des logiciels. Enfin, on voit bien que le dispositif nous amène à traiter du grand nombre et par là même à exercer un pouvoir sur ces individus. Qui est problématique. Donc on a tous été élèves et étudiants, on sait bien aussi de quoi on parle, on a vécu les deux côtés. Rapidement, donc, ça va amener l'idée que si on réfléchit à mai 68, je rappelle qu'un des déclenchements de mai 68, notamment l'anecdote, c'est quand même un contrôle de pouvoir sur une cité universitaire et la séparation filles-garçons, typique du contrôle de pouvoir, évidemment, qui fait que des étudiants en avaient assez de devoir évacuer le bâtiment des filles après 20 heures, et que c'est un des éléments de protestation en Nanterre qui va déclencher notamment le mouvement. Donc on voit bien qu'on est à l'interface de cette question-là. Après on va venir aux questions en pédagogie. Notamment à l'époque, il y a un chercheur qui s'appelle Henri Lefebvre, qui a écrit un travail qui s'appelle Nanterre au sommet. Et là, je te passe le relais sur Henri Lefebvre un petit peu, pour le situer, mais on a...
Oui, alors on va aller très vite, donc peut-être pas pour situer Henri Lefebvre, mais peut-être donc pour rappeler comment... Je ne vais pas refaire l'histoire d'Henri Lefebvre, parce qu'elle est tellement vaste et tellement oubliée en même temps que c'est compliqué. Mais on va dire qu'Henri Lefebvre, sur la fin de sa carrière, va notamment écrire un ouvrage qui s'intitule « La production d'espace », où il réfléchit justement sur l'espace. C'est une sorte de point d'orgue à sa carrière, puisqu'il fait ça sur sa dernière année universitaire. Il a 71 ans à cette époque-là. Mais ça ramène également à d'autres travaux d'Henri Lefebvre, et notamment sur un des ouvrages terminaux aussi de sa carrière, qui s'appelle « Du rural à l'urbain ». Alors Henri Lefebvre, il dit de penser l'espace comme une unité théorique, en rappelant que l'espace est d'abord une production sociétale et que ce n'est pas simplement par rapport à la description ou des écrits sur l'espace qu'on va pouvoir comprendre l'espace. Il dit que l'espace c'est un tout, à la fois un espace physique, un espace mental, un espace social. Et donc, pour revenir sur ces travaux, parce que je pense qu'ils font écho à notre lecture aujourd'hui des espaces pédagogiques, Lefebvre, il évoque la difficulté de penser les espaces, notamment dans les transitions entre périodes. Alors il va identifier, lui, bon, période agraire, période industrielle, puis période urbaine. Et il dit la difficulté, c'est que par exemple pour penser l'urbain, on va le penser avec les concepts, avec les symboles, avec nos façons de voir le monde qui sont de la période industrielle. Et donc quelque part l'urbanisme, à partir du moment où il va se penser avec des éléments qui alimentent cette pensée qui sont d'une autre période, eh bien, on va mal penser l'urbain. Il dit notamment qu'on va penser l'urbain principalement d'un point de vue technocratique, et donc de l'aménagement des espaces sur une vision qui est celle de l'habitat, et en faisant complètement l'impasse par contre sur ce que serait l'habiter. Donc de quelle façon on va habiter les lieux qu'on design comme des habitats. Cette vision technocratique, il dit, elle va être fonctionnaliste.
Oui.
Elle va être fonctionnaliste et donc elle va nous amener à spécialiser les lieux. Il dit, et ça c'est lié à une également à une idéologie, hein, à une mise en œuvre de type tayloriste de l'organisation de l'espace. Il dit que par exemple, dans le passé, dans la vie du village, quand on avait la place du village, ben, cette place du village, eh ben, elle était plurifonctionnelle. On pouvait venir y faire déjà ça, y vendre sa production, et en même temps, c'était le lieu où on pouvait exprimer ses revendications, où on pouvait être consulté par rapport à nos besoins. Je vais laisser la parole à Eric pour continuer là-dessus.
En fait, ce qu'on dit là, maintenant, je vais sauter plein de choses. On va dire que donc la question, c'est vraiment comment on rend modulable ou pas un espace d'enseignement. Comment, s'il est dédié à une spécialité ou à une forme pédagogique, il contraint le futur des futures formes pédagogiques innovantes. Donc moi, j'avais travaillé sur ça. Sur la façon dont on pense le futur contraint et rigidifie le futur, puisqu'on va perdre une souplesse par rapport à un futur qu'on ne peut pas prévoir par définition. On ne peut pas tout prévoir sur l'évolution de nos enseignements dans 20 ans de cette université. Il y aura peut-être de nouvelles disciplines, il y aura peut-être un phénomène, une révolution technologique, il y aura peut-être une révolution épistémologique en sciences humaines, je n'en sais rien, mais qui va peut-être apporter des formes pédagogiques différentes. Voilà. Et donc nous sommes dans l'héritage, et c'est normal, les temporalités à la Brodel se superposent. Nous sommes dans un croisement de ces choses-là au sein même de cette université, avec des bâtiments qui vont sortir, d'autres qui sont de la première tranche de construction, d'autres qui sont de la deuxième ou troisième tranche. Et on voulait parler aussi, puisqu'on est professeur d'art plastique, par exemple de la place des pratiques dans l'université, qui sont des pratiques pédagogiques, au sens pratique artistique par exemple, différentes. Quand on a une université telle que l'université de médecine, qui historiquement s'inscrit dans la pratique de la dissection par exemple, des corps, eh bien, vous allez avoir dans l'espace urbain montpelliérain ou à Perpignan des salles de dissection qui sont carrément des monuments inscrits dans la ville. La chambre de commerce et d'industrie au centre de Montpellier est une salle de dissection. À Perpignan, vous avez une salle de dissection de l'université ancienne, une coupole inscrite au centre-ville. Donc on a une patrimonialisation d'un acte perçu comme noble. Et on avait donc dans l'espace urbain montpelliérain l'école des beaux-arts qui se trouve en face du Quorum, qui est la cité internationale actuellement, la maison internationale si vous voulez. Là c'est l'ancienne école des beaux-arts, qui après s'est exercé dans un collège jésuite qui est devenu le musée le musée Fabre. Bon, voilà. Donc vous avez inscrit dans l'espace urbain ces activités de pratique, en fait. La question, c'est que quand les universités se sont pensées, c'était les arts libéraux, vous le savez mieux que moi, et à partir de là, la question de la pratique, en termes pédagogiques, n'existait pas à l'intérieur des universités. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des problèmes, parce qu'on ne peut pas dédier un espace, par exemple, d'atelier de pratique. C'est très compliqué. Un atelier permanent de pratique, comme aurait une école d'art. Le but de l'université n'est pas d'être comme une école d'art, mais on doit faire pratiquer aussi les élèves. En science, c'est les collègues de science, vous avez des labos, normalement, dédiés, avec des réserves, voilà. Et c'est inscrit dans l'histoire épistémologique de vos universités. Nous, c'est compliqué, parce que ces matières sont rentrées en 68. On a beau avoir construit des universités, finalement, post-68, elles n'ont pas anticipé forcément, peut-être à Paris 8, quand même, mais elles n'ont pas forcément anticipé, ou elles préexistaient dans la conception, et les nouvelles universités n'ont pas prévu ce genre d'évolution, en fait. Donc voilà, je dis pas ça pour par rapport aux arts plastiques, je dis que les autres pratiques innovantes se retrouvent devant les mêmes obstacles, en fait. Pour conclure, parce qu'on n'a pas le temps, espace potentiel, mais normalement on a fini.
Non.
Alors vas-y.
Non, pour conclure, donc voilà, j'en reparlerai éventuellement s'il y a des questions qui sont posées là-dessus. Ces espaces-là, il faut peut-être les voir comme des espaces potentiels au sens de Winnicott, mais peut-être la façon dont on les a réinterrogés Emmanuel Belin, en tant qu'espace en fait, où la vie peut prendre. Et des espaces où la vie peut prendre, il va même employer le mot, des lieux où la vie peut prendre. Et donc tout à l'heure, peut-être qu'on pourra développer sur le concept de lieu chez Marc Auger, et donc pour savoir si ces espaces de pouvoir, l'université, sont peut-être pas également des non-lieux, et comment on peut faire, d'un point de vue pédagogique, pour les transformer en lieu anthropologique, où on serait quand même plus à l'aise pour développer notre pédagogie.
Dernier exemple, on a des masters qui n'ont pas de salle dédiée, par exemple. Et un master qui a une salle dédiée, l'habité de ses étudiants est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Il y a une appropriation dans la stabilité. Donc, c'est contradictoire à ce que j'ai dit. La spécialisation permet une meilleure façon d'habiter. Le passage, le non-lieu, comme hall de gare, hall d'aéroport et salle dans laquelle défilent des disciplines différentes, implique un rapport au lieu et peut-être au savoir différent aussi. C'est la question qu'on peut se poser, en fait. Et l'amphithéâtre étant le symbole de ça, évidemment. Voilà, c'est un lieu à la fois commun qui est partagé par tous, donc c'est idéologiquement, on va être d'accord avec ce principe-là. Et pourtant, le passage et la circulation des étudiants créent peut-être un rapport au savoir qui est de l'ordre de la consommation, du zapping ou de la distance avec le prof. Ça, c'est clairement inscrit dans l'amphithéâtre, quand même. On a dépassé de 2 minutes, on s'excuse.
Merci à vous deux. Question, vous partez tous les deux
ou... Non, Thierry reste stable.
Donc, pour mettre en œuvre passage et circulation, on va peut-être entendre chacun et puis circuler la parole après.
Brigitte, voilà, donc j'espère peut-être qu'on pourra apporter quelques réponses à vos problématiques. Donc... Ma proposition concerne la contribution du design à la conception des espaces pédagogiques, c'est-à-dire comment les designers vont prendre en compte effectivement toutes ces problématiques liées à l'espace et aux évolutions dans la pédagogie. Alors j'ai divisé mon intervention en 3 points, donc entre héritage et innovation, la forme scolaire aujourd'hui elle a énormément changé, mais par contre, on vit toujours évidemment des continuités avec assez peu de ruptures. Donc je referai une petite histoire des espaces pédagogiques. En second point, donc, comment les designers prennent en compte cet espace en tant que dispositif, c'est-à-dire non seulement en tant qu'espace, mais aussi avec tout le réseau de relations, évidemment comme espace aussi anthropologique. Et en troisième point, donc, comment le projet chez les designers permet de concevoir des espaces pédagogiques plus flexibles et tournés vers des évolutions futures. Donc, pour faire un bref petit rappel de ces formes scolaires, je vais peut-être aussi déclencher un petit chronomètre pour ne pas dépasser. On est passé d'un système très élitiste hein, de ce qu'on appelait le studio, le ratio studio room, qui était un dispositif essentiellement écrit, une forme éditoriale entre un apprenant et un enseignant, à un système beaucoup plus démocratique. L'école au 19e rend l'école obligatoire et donc le système éducatif s'incarne alors aussi dans des espaces et des mobiliers très spécifiques. Donc cette évolution-là, il est nécessaire, je pense, de la rappeler pour tracer des évolutions futures. Un peu plus tard, au XXe siècle, on oscille aussi entre des tentatives de standardisation et des expérimentations. Alors d'un côté, je vous ai mis une chaise très célèbre, très utilisée, très achetée par l'UGAP dans l'éducation nationale, la chaise Mulca, produite à des millions d'exemplaires, qui a permis de meubler les écoles après la Seconde Guerre mondiale massivement, et également aussi les tentatives de Le Corbusier avec la Cité radieuse, qui a intégré aussi un système scolaire dans son programme de mixité sociale, et donc installe des écoles au dernier étage avec une cour sur les toits. Donc il y a eu 4 unités comme ça construites en France. Rosé, celle que j'ai mise en photo, en fait, est une des dernières en fonctionnement, mais dont évidemment l'avenir est remis en question, puisque la forme proposée, évidemment, est devenue obsolète. À côté de ça, à côté de ces tentatives massives, donc, de réponse par des créateurs et des designers de standardisation, il y a effectivement pas mal d'initiatives et d'expérimentations au niveau pédagogique. Alors en général, ce sont les écoles de design qui ont le plus innové dans leur réflexion sur les espaces pédagogiques, parce qu'elles ont le plus souvent prôné un enseignement transdisciplinaire qui a permis en fait de moins formaliser, de moins fermer les pratiques. Donc j'ai mis ici une illustration du Black Mountain College, mais cette école expérimentale aux États-Unis, enfin cette université expérimentale, a pris en fait ses sources dans l'école du Bauhaus en Allemagne, donc la première version de l'école du Bauhaus à Dessau, donc au début du XXe siècle. Et donc ce type d'école allie à la fois des formes scolaires, c'est-à-dire au sens de forme, c'est-à-dire de bâtiment, mais également de formes pédagogiques aussi assez innovantes. Donc au XXe, on oscille en fait entre ces deux pôles-là. Depuis les années 70, de nouveaux paramètres vont devoir être pris en compte, c'est-à-dire que la mobilité et le numérique vont introduire de nouveaux paramètres à prendre en compte dans les espaces pédagogiques pour permettre une innovation plus ascendante, dans le sens où en fait on va plutôt questionner les usagers pour prendre en compte leurs besoins. Donc évidemment, le numérique remet en question le rôle de l'enseignant, hein, et c'est vraiment le dispositif espace-outil apprenant-enseignant qui va porter désormais l'intention pédagogique. Et c'est sur cet aspect-là que vont spécifiquement travailler les designers. Alors il y a toujours aussi une initiative, on va dire, descendante de l'État par rapport à l'innovation scolaire. Donc j'ai pris deux exemples. Donc le prix Jean Prouvé qui a été lancé par l'Éducation nationale en 2014 et qui était destiné à interroger les espaces pédagogiques par les disciplines créatives comme le design ou l'architecture, avec une volonté de s'adresser au plus grand nombre. Il y a également la Cité du design qui a conduit un programme de recherche assez important sur les espaces pédagogiques et qui a donné lieu à une publication dont vous voyez la couverture, Innover dans l'école par le design, avec des solutions prospectives, ouvertes, assez flexibles, une sorte de boîte à outils dans laquelle on peut venir puiser des solutions. Alors ces nouvelles technologies vont évidemment avoir des effets assez considérables, puisque les façons d'accéder à la connaissance sont complètement modifiées, et c'est vraiment sur ce point-là que le designer va pouvoir intervenir avec le plus de pertinence. Alors j'en viens à mon deuxième point, comment les designers vont prendre en compte cet espace pédagogique en tant que dispositif. Alors je rappelle une définition qui est celle de Giorgio Agamben, hein, sur le dispositif. Donc c'est bien sûr non seulement la prise en compte des espaces, des personnes, mais aussi de toutes ces interactions entre les personnes. Et donc c'est dans ce sens-là que les designers vont concevoir des espaces en prenant en compte tous ces paramètres dans toutes leurs interactions. Alors, premièrement, la première manière d'introduire, de, de l'interaction dans ces dispositifs. Donc ça va être de décloisonner l'espace par de la flexibilité. Donc là, j'ai mis comme exemple un système modulaire de planification de bureau qui n'est pas destiné nécessairement à des espaces purement pédagogiques, c'est plutôt des espaces de travail. Mais c'est pour illustrer cette dimension de flexibilité, de pouvoir reconfigurer les espaces en fonction des besoins. Le deuxième point, avec un deuxième exemple que je vais aussi redétailler plus tard, c'est aussi avoir introduit de la fluidité. Alors j'ai mis ici un bâtiment qui a été construit récemment par une agence d'architecture japonaise, c'est le Rolling Learning Center à Lausanne, donc qui est un bâtiment, donc j'ai mis une photo là-bas où on voit en vue un peu aérienne. C'est un bâtiment, vous voyez sous cette feuille en fait, l'espace n'est absolument pas cloisonné, il n'y a pas de mur en fait. Donc c'est un espace complètement fluide, construit sur une métaphore hein, de l'agora et de la colline, mais dans lequel on peut circuler assez librement. Donc cet espace, c'est une sorte de hub culturel en fait. Hein, c'est un espace qui a été construit pour l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et ça abrite une des plus grandes bibliothèques scientifiques européennes. Donc un espace dans lequel on peut travailler très librement. Et puis, quelque chose dont vous avez parlé également, c'est comment introduire de la modularité, évidemment, dans ces espaces pédagogiques. Donc là, c'est un autre projet que je voulais montrer, qui est une carte blanche du VIA, donc c'est un institut de valorisation de l'ameublement en France, qui finance des prototypes et des projets innovants, pas forcément autour de la pédagogie, mais autour de l'ameublement. Et ici, c'est une proposition, donc... qui est un dispositif qui vise à adapter l'espace éducatif traditionnel du collège à l'ère numérique. Donc là, c'est un exemple dédié au collège. Donc on voit d'ailleurs l'âge des usagers sur les photos qui le montrent bien. Donc dans cet espace, il y a toute une typologie de mobilier qui a été développée et qui permet en fait de pouvoir reconfigurer l'espace à loisir. Alors évidemment, la prise en compte aussi de cet espace par les designers, c'est aussi avec le corps en mouvement. Je vais essayer d'accélérer parce que je vais dépasser. Donc là, j'ai repris dans les projets précédents que j'ai déjà montrés, que ce soit au Rolling Learning Center ou sur le projet en archipel, la notion des postures en fait, des usagers aussi est importante et prise en compte dans ce dispositif. Alors, troisième point, et j'arrive à la conclusion, comment le designer intervient, c'est par aussi des opérations de conceptualisation. Donc il engage dans sa démarche créative déjà dans un premier temps des opérations de conceptualisation. Donc le projet en archipel qu'on a vu précédemment, il est construit sur la métaphore de l'archipel, c'est-à-dire en fait des îlots qui semblent séparés, mais qui sont en fait reliés pour former un tout. Et dans le cas du Rolling Learning Center, évidemment, c'est plutôt l'image de l'agora et des collines en pente douce. Donc ces opérations de conceptualisation aussi, elles s'associent à des opérations de description, c'est-à-dire que le designer, il va engager des activités d'observation, d'identification des situations, et aussi donc des liens qui se tissent surtout entre eux. Donc ces pratiques, ça permet évidemment la formulation d'hypothèses créatives et de matérialiser des scénarios d'usage. Donc en fait là, il y a quatre situations différentes et vous pouvez retrouver en fait les mêmes formes scolaires dans les quatre images, sauf qu'elles répondent à chaque fois à des besoins pédagogiques différents, à des moments en fait différents. Donc on voit comment cet espace peut être reconfiguré à loisir en fonction de l'évolution de la pédagogie, en fonction de l'évolution de ce qu'on va vouloir y enseigner. Et enfin, donc pour conclure sur cette contribution du designer à la conception, c'est, je dirais que le design est une matrice plutôt générative d'usage, c'est-à-dire que le designer a vraiment cette capacité à mettre en relation des choses très différentes, donc à saisir à la fois des formes, des espaces et des besoins liés aux usagers. Et donc, il va pouvoir mettre en relation, évidemment, enseignants, apprenants et pédagogie. Et puis, je vous laisse lire cette citation qui n'est pas récente, mais que je trouve très pertinente, qui représente bien ce qu'est le design, au-delà donc d'une tâche complexe qui va intégrer beaucoup de paramètres différents. Faire du design, c'est penser en termes de relations, donc c'est Laszlo Molinagy, un designer et un enseignant en design qui a déjà déclaré ça au début du XXe siècle. Voilà, je m'excuse, j'ai un peu débordé.
Merci. Il y a beaucoup d'idées qui me sont venues des deux présentations précédentes. J'ai beaucoup réfléchi à la notion d'espace, en fait, parce que en psychologie, ça prend une proportion très grande, en fait. Il y a l'espace physique, il y a l'espace social, il y a l'espace psychologique, il y a l'espace mental, c'est-à-dire, entendons par espace mental, la partie de notre cerveau qu'on dédie à quelque chose. C'est pas une partie physique, hein, mais c'est une partie qu'on dédie à quelque chose, donc ça renvoie vraiment à beaucoup de choses. Et puis, moi, ce qui m'intéressait dans cette notion d'espace, c'est pas la notion d'espace en elle-même, c'est comment on peut relier l'espace avec l'apprentissage. Alors, en fait, on a des manières d'apprendre très différentes en fonction des situations dans lesquelles on se trouve. Et on peut apprendre de manière collective, dans un cours par exemple, en partageant avec des collègues ou avec des étudiants. Et puis on peut apprendre seul, parce que la situation veut qu'on est seul pour apprendre. Alors, si j'ai une idée qui me vient comme ça, c'est... moi j'ai appris une langue seule, parce qu'il a fallu que je l'apprenne, puisque j'allais voyager. Donc j'avais pas d'autre moyen que d'apprendre seul, et je commençais à apprendre seul en occupant les espaces, en allant me balader, en achetant des journaux, en regardant la télévision, etc. Et je me suis retrouvé dans une situation où j'ai mis à l'épreuve mon autonomie. Et c'est donc de ça dont je voulais vous parler, parce qu'à partir du moment où on est dans une situation où on est seul pour apprendre, parce que la situation le veut, où on est avec les autres, eh bien la manière d'occuper l'espace va être complètement différente. Alors sur le plan de la psychologie, il y a, dans ce que vous avez dit, évidemment, y compris dans le design, c'est comment occuper l'espace. Parce qu'en tant que psychologue, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est mais que va faire la personne dans cet espace? Est-ce qu'elle va s'y sentir bien, ou est-ce qu'elle va s'y sentir mal? Et on va lui dire, oui, mais c'est quelque chose qui est très innovant, vous allez voir, vous allez vous sentir bien, etc. Mais c'est pas dit du tout qu'elle se sente bien. Il peut y avoir des différences individuelles vraiment très fortes. Ah, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, c'est un petit peu là-dessus que je voudrais développer les relations entre espace et apprentissage. Mais donc, je vais parler de l'apprentissage, mais tout en gardant en toile de fond ce que vous avez dit à propos de l'espace. Il y a l'enchaînement avec ce que vient de dire ma collègue. J'ai donc un petit peu exploré, vous voyez un petit peu les bureaux en fait, où les personnes sont face à face mais ne se voient pas parce qu'il y a un écran devant. Donc au niveau psychologique, ça doit être extrêmement frustrant de travailler dans un environnement pareil en fait. Et on s'aperçoit que beaucoup de bureaux sont construits comme ça en fait. Ils ne sont pas du tout prévus pour que les personnes communiquent, donc elles sont en groupe mais elles sont isolées en fait, elles sont seules. Voilà, donc là on revient à la problématique de la solitude qu'on peut rencontrer. Et puis voilà une petite enquête hein, qui a été faite par un institut de sondage où on voit qu'il y a 64% des personnes qui ne sont pas contentes du bureau qu'elles occupent. Donc c'est quand même très préoccupant. Alors je ne sais pas pour vous hein, si vous êtes content du bureau que vous occupez, mais les personnes vont dire mais ça me pose des problèmes parce que je ne peux pas tout faire dans le bureau que j'occupe. Et puis aussi le bureau c'est un cloisonnement. Mais c'est un cloisonnement, mais pas seulement le bureau, l'endroit où on se trouve. Par exemple, on est dans tel bâtiment, où on est... qui on va voir? Et donc, il faut se déplacer aussi dans l'espace. C'est très, très important. Moi, par exemple, j'ai refusé d'aller dans un bureau où je savais que mon espace allait être très, très limité. Donc, j'ai préféré changer de lieu pour pouvoir rencontrer beaucoup plus de monde, parce que ce sont les rencontres aussi qui symbolisent l'espace, c'est-à-dire les déplacements. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire comment je vais me déplacer dans l'espace et comment je vais réussir à rencontrer les personnes en me déplaçant dans cet espace-là. Alors, par exemple, pour les arts plastiques, mais aussi pour le théâtre, avant-hier, j'étais au théâtre de La Vignette, et j'ai vu comment les comédiens occupaient l'espace. C'est quand même quelque chose qui est fantastique, parce qu'ils travaillent vraiment là-dessus. Et ils ont une manière d'occuper la scène qui est vraiment étonnante. Ils vont vers le public, ils sortent, ils repartent derrière, etc. Je sais qu'il y a des gens qui étaient aussi au théâtre avant-hier. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important psychologiquement. Parce qu'on se sent bien dans l'espace. Et c'est ça, ce côté de se sentir bien dans l'espace qui est, à mon avis, très important dans l'apprentissage. C'est-à-dire, on peut mettre à notre disposition des millions, investir des millions pour créer un espace où on sait que les gens pourraient éventuellement se sentir bien, mais ils risquent de s'y sentir mal, ou du moins certaines personnes s'y sentir mal. Donc il y a le côté différentiel, c'est-à-dire chaque personne va réagir différemment, et c'est ça qu'en psychologie... on étudie en fait. Là, vous avez d'autres espaces, mais je pense que ça rejoint un petit peu. On va dire, vous voyez, là, c'est déjà mieux parce que, etc. Donc, on essaie de trouver des formes ergonomiques qui permettent aux personnes de s'y sentir bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que nous avons chacun probablement des manières d'apprendre. Ça veut dire qu'on peut travailler sur les apprentissages en définissant tel type d'apprentissage, par exemple l'apprentissage par essai-erreur, l'apprentissage par imitation, tout ce qu'on voit en psychologie, en fait, dans la psychologie des apprentissages. Mais on s'aperçoit que quand on est face à une situation, par exemple, je donnais l'exemple de la langue, eh bien, tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve et aussi de nos ressources, c'est-à-dire apprendre une langue seule, c'est vraiment pas facile, hein. Il faut passer beaucoup de temps parce qu'on n'a pas les éléments, on n'a pas le professeur, etc. Donc ça... Alors, une petite situation pour vous montrer ici que deux personnes, un petit garçon et une petite fille, eh ben, ils ont un modèle réduit, ils doivent construire un avion. Et puis on voit que la manière d'appréhender la construction, c'est-à-dire d'apprendre à construire l'avion, est complètement différente, puisque la petite fille est méthodique, mais le garçon, lui, est très intuitif en disant « Ah, si je fais comme ça, eh bien, ça pourra marcher ». Donc ici, on a plusieurs manières d'arriver à la même solution. Alors, je voudrais quand même vous dire une chose, parce que dans une dizaine de jours, je reçois un collègue de l'université d'Helsinki, en Finlande, et en fait, il me disait que, par exemple, pour apprendre les mathématiques, à l'école, il laissait libre, en fait. C'est-à-dire, il donnait 2-3 méthodes, disant, vous choisissez la méthode que vous voulez, du moment que vous arrivez au résultat, c'est bon. On leur impose rien, en fait. Et ça, c'est quand même intéressant, parce qu'on respecte, en fait, d'une certaine manière, la manière de raisonner de l'enfant, qui peut être différente d'une personne à une autre. Et là, on va arriver à ce que je voulais décrire, c'est-à-dire l'éducation. Vous connaissez ça, hein, je pense. Hein, si on met tout le monde au même niveau en disant « Ah, ben, vous voyez, on a un espace, il est très beau, vous allez l'occuper. » Oui, mais chaque personne va être différente. Donc chaque personne va l'occuper à sa manière, en fonction de sa personnalité, en fonction des traits de personnalité, de son extraversion, de son introversion, de son caractère sociable, de son intelligence interpersonnelle ou intrapersonnelle, qui va faire qu'elle va se sentir plus ou moins bien dans l'espace. Et ici, on voit quand même que si on demande à tous de faire la même chose, ils n'y arriveront pas, évidemment. Et donc là, c'est aussi... Le paradoxe de ce qu'on observe, nous, hein, quand on essaie de mettre tout le monde au même niveau, en disant, on va vous créer un espace, aussi beau soit-il, eh bien on va voir que les personnes ne l'occupent pas du tout de la même manière. Ça, c'est quelque chose qui est important en termes d'apprentissage, mais en termes de psychologie. Donc, si on réfléchit, on sait que, en fait, si on va à l'université, c'est pour rencontrer des gens, en fait. Donc, on a ce besoin d'échanger. Et si on rencontre des gens, ça veut dire qu'on est en mesure de se déplacer dans l'espace et d'arriver à satisfaire notre besoin social, qui est le besoin d'apprendre, le besoin d'échanger, etc. Mais ça veut dire qu'on doit se déplacer. Et on doit aller dans différents lieux et trouver les correspondances qu'il y a en différents lieux. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur... Parce que je ne savais pas, en fait. Hein, je suis là depuis longtemps, mais je ne savais pas du tout l'histoire de l'université et puis comment les immeubles ont évolué et comment l'évolution va se faire, etc. Et donc ça, c'est très intéressant parce que quand on voyage dans les lieux, on va rencontrer un bâtiment neuf, on va dire, ah, on savait pas que ce bâtiment allait pousser, etc. Donc on va aller explorer, etc. Mais nous sommes des explorateurs. Nous sommes des explorateurs parce que nous aimons voyager et nous aimons voyager à l'intérieur de notre université aussi, parce que ça veut dire rencontrer des gens. Donc l'espace, on l'utilise aussi pour rencontrer des personnes et pour échanger. C'est pour ça que la notion est vraiment fondamentale en psychologie. Alors le besoin social, mes collègues de psychologie sociale, ils en parleront mieux que moi, mais c'est quand même des choses qui sont importante parce que le groupe va nous pressionner, c'est-à-dire on va nous demander d'occuper certains espaces parce que il faut que ça soit dans notre profession, hein, intégré dans notre profession, par exemple le fait de se déplacer dans un amphi et donner un cours devant 300 personnes. Donc on occupe d'une certaine manière l'espace parce qu'on va être comme si on était sur une scène et on a un public devant nous avec des personnes qui se disposent en haut, en bas, etc. Il va falloir occuper cet espace-là, ce qui est très difficile. Hein. J'imagine que vous avez aussi l'expérience de l'amphi et vous savez un petit peu comment c'est difficile de gérer cet espace-là. Et je ne sais plus combien il me reste de temps. Mais...
Pour moi, une minute.
Donc... Alors,
tu peux en prendre deux.
Je peux prendre deux.
Je reviens. Par contre, on n'a plus rien.
Ouais, je reviens au langage parce que c'est, à la langue en fait parce que c'est notre instrument de communication et le fait de briser ces barrières de la langue, ça nous permet aussi de briser mentalement des barrières qui font que parce que la personne ne parle pas la même langue que moi, je ne vais pas m'approcher d'elle parce que je ne sais pas ce qu'elle va me dire et je ne vais pas comprendre ce qu'elle va me dire. Donc là aussi, les langues sont aussi des espaces, si vous préférez, à conquérir. Là aussi, vous avez l'émergence du langage. Hein. Ça veut dire qu'elle essaye de lui parler et il n'en est pas à ce stade-là encore. Donc, ils essayent de communiquer. Mais ici, on voit bien que la langue, c'est aussi occuper des espaces. Alors, je voudrais juste terminer par une forme d'apprentissage. Quelle forme d'apprentissage ? Parce que, et je réponds, peut-être on verra ça dans la discussion. C'est quelle forme d'apprentissage ? Alors, je voulais développer ça, mais je n'aurai pas vraiment le temps pour en parler. Peut-être en fonction de la forme d'apprentissage qu'on va développer, eh bien, l'espace à conquérir ou l'espace sur lequel on va se situer va être complètement différent. Donc il faut savoir quel type d'apprentissage on va mettre en place pour pouvoir occuper l'espace. Et ça c'est très important, c'est-à-dire l'espace ne doit pas arriver comme ça en disant on vous fournit un espace et essayez de faire quelque chose avec. C'est pas ça qu'on doit faire à mon avis. C'est réfléchir à comment on doit apprendre et à partir de là on va occuper l'espace qui est le mieux déterminé pour cet apprentissage-là. Alors je voulais continuer là-dessus mais je crois que j'aurai pas le temps donc je préfère... m'arrêter ici, au plus on pourra discuter.